Donc, François Chécouillard, accompagné du rocker, du bluesman, du poète. Est-ce qu'on pourrait dire le poète maudit, capitaine?
Non, non, je pense pas qu'on pourrait dire le poète maudit. Je vois pas pourquoi maudire ça. Non.
Selon le capitaine No, qui est le capitaine No?
Moi, ouais, ben, le capitaine No, c'est un gars de la prairie qui a passé toute sa vie à la prairie. La prairie, c'est ça arrive sud de Montréal. On a Longueuil, on a Brossard, on a la prairie. C'est la route pour aller aux États-Unis.
C'est celui qui règle vos problèmes.
C'est le Cocomène.
Cocomène.
C'est le Cocomène.
Moi, mes parents faisaient là, mes beaux-parents, j'ai marié une fille de la prairie, puis j'ai passé toute ma vie à la prairie, pas encore là d'ailleurs. Et puis, ce qui me fait que ça me donne, dans ma vie personnelle, maintenant, un certain équilibre. C'est-à-dire que j'ai pu voir, comment je dis, les gens de toutes les sortes de gens de la société et toutes sortes d'âges aussi. Je côtoie des gens de toutes sortes d'âges. Des fois, tu sais, je parle à des vieillards, je parle à des enfants, je parle à toutes sortes de monde, mettons. Qui me permet d'avoir, d'être balancé. Je suis bien content d'avoir mon 60 ans, contrairement à d'autres qui pensent que, bon, la vie est finie. Pour moi, on dirait qu'à 40, tu sais, j'ai moins de soucis de financiers ou des choses comme ça. Puis là, je suis plus comme en train de faire ce que je veux faire, mettons, tu sais.
C'est ça, ben, faut le dire, Capitaine No, en fait, la carrière a commencé au milieu des années 60. Et là, vous venez de recommencer, ça va être votre premier spectacle depuis 8 ans.
8 ans, oui, c'est ça.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé là, entre-temps? Là? Pourquoi est-ce que vous avez... ça fait quand même un bout de temps que vous avez commencé et pourquoi cette pause?
Pourquoi? Ben, parce que aussi, quand j'ai eu 51 ans, mettons, c'est je me suis trouvé un petit job parce que dans la musique, moi, avant ça, je faisais juste de la musique. On peut dire que de 74, 73 à peu près, à aller jusqu'à... 2001, j'ai fait juste la musique pour gagner ma vie, puis la vie de ma famille aussi, parce que ma femme ne travaillait pas, ta maison, c'est pas mon leçon, puis bon, tu sais, une vie familiale normale. Fait que là, mes parents étaient malades, tous les deux étaient pris du cancer à des niveaux différents, et puis le fait de moi, disons que je suis en fin de vie, puis je reste à peu près à 3 points de vue de la maison de mes parents. Et puis, ça m'a mis dans une certaine situation de m'occuper d'eux autres. Donc, les tournées, les ci et ça se plaçait pas tellement bien.
Vous êtes resté dans l'ombre un peu, de façon underground.
Donc, j'ai pas été exploité, mettons. Là, c'est mon troisième microsillon qui a été produit. J'en ai deux qui ont été produits par la compagnie, qui était la compagnie RCA à l'époque. Une assez grosse compagnie, quand même, Elvis Presley là-dessus, puis Frank Sinatra, c'est une grosse compagnie à l'époque. Ça a été tout racheté, c'est revendu à d'autres compagnies, BMG a racheté ça, puis là, c'est rendu Universal. Mais pour dire que depuis peut-être les années 76, 77, que j'ai brisé un contrat, puis je me suis occupé de mes affaires moi-même. Et puis, j'ai toujours été un peu underground.
Et pourquoi vous avez fait ça, justement, le bris de contrat? Est-ce que vous aviez perte de confiance?
Je ne sais pas. Je pense que mes affaires étaient assez avant-gardistes. Les gens avec qui je travaillais ne l'étaient peut-être pas. Dans l'écurie d'RCA, dans ce temps-là, ils ont d'ailleurs ressorti récemment, en 2001 ou quelque chose comme ça, ils ont sorti un disque qui s'appelle le meilleur des années 70. Quand on regarde qui c'est qu'il y a là-dessus, mettons, on voit Roger Whittaker, on voit Patrick Tarman, mettons, on voit, tu sais, des Lady Ladies. Tu sais, c'est pas trop rare comme produit underground, si tu veux. Tu sais, les autres étiquettes, il y avait des étiquettes plus capitales, ou bien, A&M, il y avait plus des artistes underground, si on pourrait dire, tu sais, en quart, je ne sais pas, il y avait des groupes au Villemont Blues Matter, je sais pas, disons, tandis que moi, ben, c'est un peu qu'étaine, tu sais, mettons, dans mon étiquette, mais puis je sais pas, j'étais pas mal rebelle quand j'étais jeune aussi.
Parlons-en justement de la jeunesse de Capitaine No, qu'est-ce que c'était exactement, est-ce que vous étiez un jeune révolté, on parle des années, mettons, les années 60, là, c'est justement la FLQ.
La FLQ, j'ai pas rapport avec la FLQ.
Non. Les mouvements souverainistes?
Non, mais pas de même, non. Peut-être dans ma tête, mais pas en action ou des manifestations. Je suis pas ce genre-là, mettons. me suis exprimé, j'ai dit des choses que je pensais dans mes chansons, mais ça n'a jamais été un tracas pour moi tant que ça, on peut dire, ça me tracasse à quoi ça. Moi, j'ai fait mes beaux-arts, j'ai étudié en art parce que dans ce temps-là, je voulais faire quelque chose d'artistique, puis la musique n'était pas enseignée, c'était enseigné par des sœurs, ça, au petit conservatoire.
Alors, j'étais matrice, là.
Et puis, moi, c'était la musique que j'ai appris pas mal sur les galeries, tu sais, je veux dire, à jouer de la guitare sur les galeries, c'était pas pareil, puis du rock and roll, puis les Beatles, les Rolling Stones, puis tout ce qui tournait.
C'était vos inspirations, ça.
Ouais, c'est ça, les Rolling Stones, les Beatles, les Animals. Et tout ce qu'il y avait des racines de blues, John Mayall, tout ça. Enfin, que j'ai appris par moi-même. Et puis, j'ai pas été à l'école de ça, puis j'ai été à l'école des beaux-arts. Peut-être comme John Lennon était à l'école des beaux-arts. Beaucoup ont passé par les beaux-arts parce que il n'y avait peut-être pas de débouché dans l'underground. Puis c'est une place, ça, les beaux-arts, où c'est que tous les artistes avec des barbes. Tu sais ce que je veux dire? Tu sais, il y avait un côté bohème, alors qu'au côté des beaux-arts, mettons. J'étais aux arts appliqués, puis j'étais à l'école des beaux-arts, puis après ça, j'étais un drop-out, j'ai lâché l'université, puis j'ai commencé à faire mes chansons. J'ai travaillé dans les domaines audiovisuels à l'Université de Montréal, puis à l'Université du Québec comme emploi d'étudiant. Et puis, j'avais accès au studio, je commençais à m'enregistrer, puis j'étais me promener avec mon tape, puis j'ai fait triper du monde. Et puis là, j'ai fait un premier disque en 72 avec l'équipe de Tony Roman. Puis après ça, ça n'a pas fait grand-chose, mais bien pour revenir à ta question tout à l'heure, j'ai fait deux chansons sur un premier 45 tours du nom Pierre-Louis, puis c'était les syndicats, parce qu'il y avait mis Pépin, Laberge et Charbonneau, les trois chefs syndicaux, en prison. Et puis j'avais fait une chanson sur le manger, qu'on mange la malbouffe, là, tu sais. Et on voit que ces thèmes-là sont toujours d'actualité. Dans le fond.
Oui, vous avez même une chanson sur la terre.
Oui, puis je l'ai sortie en 91. Je l'ai enregistrée en 91, puis dans le fond, elle est d'actualité. Tu sais, mes affaires, là, je regarde ça avec le temps, là, puis les choses sont d'actualité encore, mes textes. Attends, tu sais.
Mais comment vous expliquez ça justement là? Parce que là, vous avez parlé de vos influences tout à l'heure, mais je pense que c'est plus les influences au point de vue musical, mais pour les paroles, c'était quoi vos influences?
J'en avais pas pour les paroles. C'était juste la musique. Moi, j'aime bien la musique.
Ça, ce que vous avez,
j'y mets le paroles. Je me casse la tête en général. le meilleur qui est le mieux, c'est quand les paroles et la musique viennent ensemble. T'sais, mettons ça, c'est toujours plus le fun. C'est quand ça sort, tu sais. Puis quand on commence au début, on doit compter de son sac et puis qu'on a beaucoup de choses à dire, puis ça vient tout seul, tu sais. Puis avec le temps, on devient un peu plus professionnel, mettons, tu sais, plus raffiné dans ce qu'on fait. Puis, à un moment donné, on s'autocritique automatiquement, ce qui fait qu'à un moment donné, on a moins d'inspiration. Peut-être pas moins d'inspiration, mais ça sort moins vite, mettons, en disant qu'on va le faire. On y réfléchit, voici, c'est bon, tu sais, on décortique, on fait beaucoup d'analyses, mettons, pour... alors que jeune, je me questionnais pas. Puis, je faisais tout ce qui me passait par la tête. Mm-hmm. Puis, ces chansons-là sont encore... moi, je pense qu'elles sont encore bonnes. Mais je sais pas si tu les as entendues, toi, des personnes de même. André, c'est pas niaisé, puis... Le texte André, mettons, tu sais, si on... Tout à l'heure, tu parlais de politique, ben, il est en cours d'actualité. Le Québec, tu sais, quand même...
Ah, André, laisse-moi pas niaiser.
Ouais, t'as connu celle-là?
Ben oui.
Ouais, bon, ben, si t'écoutes le texte, on voit que le Québec a peut-être pas évolué tant que ça, le texte en cours. Il est en cours, on est rendu, quoi, 33, 34 ans plus tard, mettons, tu sais, 34 ans plus tard, tu sais, le texte en cours d'actualité.
Le Canada, c'est un pays riche, proche des États. On est bilingue, des French bisous, tout le monde sait ça.
Le public a évolué, mettons, avec des gars, tu sais, comme Daniel Boucher, ça fait mal. Ça a fait un peu, comment est-ce qu'on dirait, donc, les gens sont plus habitués au genre de...
Ils sont plus ouverts au...
Ouais, tu sais, qu'avant, mettons, quand j'ai sorti ça, mes tours de 35 ans, ben, ça fait ça dans le village pas mal, tu sais. Les gens dans ma ville, tu sais, c'est c'était pas au bout du jour.
Ouais, justement, parlons-en, justement, les réactions à l'époque. Est-ce que les gens vous considéraient comme un oiseau étrange?
Ah oui, probablement, oui. C'était un bon chapeau des mots aussi, puis j'avais tout un caractère aussi, tu sais. Mais je me suis bien assagi avec le temps. Dans ce temps, j'ai comme serein, tu sais, j'ai comme une... comment est-ce qu'on dirait, donc... Je suis bien, tu sais, et puis ça va paraître dans ma production que je vais présenter, maintenant, parce que il y a beaucoup de gens, c'est très varié, mais c'est plus folk rock, maintenant, tu sais, c'est moins appuyé qu'à d'autres affaires des fois j'ai faites qui étaient plus rock. Là, c'est folk rock, maintenant, tu sais, ça y a un peu de country, du blues et du rock léger folk. Ça va être ça.
Ça faisait 6 jours qu'on était dans le désert. Moi puis mon chum Tonto. Ça faisait 6 jours qu'on était dans le désert. Moi et mon chum Tonto.
Écoute, j'aimerais ça qu'on parle de la pièce Ville de Rien. C'est une pièce qui est très longue. En fait, c'est une histoire, c'est comme un conte, une espèce de conte surréaliste en quelque sorte. Là. Comment t'en es venu à créer cette pièce-là?
Ça, c'était une idée qui m'est venue d'un de mes amis qui s'appelle Gaston Rivet. Il m'est arrivé on se fréquentait, lui, il vient de la région de Joliette. Et puis, il m'est arrivé avec une idée, Ville de Rien, c'est qu'il n'y a jamais rien de vrai, tu sais.
Ville de Rien, c'est qu'il n'y a jamais rien de vrai. Ville de Rien, c'est que mon machin le bras, ouah, 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 ouah,
ouah. Il m'a chanté juste un petit bout là, tu sais. Puis moi, j'en ai fait une chanson de 22 minutes, tu sais. Il m'a comme allumé. Puis là, j'ai passé une idée, puis là, dans le désert, toute la patente, et puis c'était comme j'improvisais ça de fois en fois que je le faisais.
Ok.
Jusqu'à temps que j'avais un certain niveau, mettons, tu sais, en spectacle, je l'improvisais. Mais à un moment donné, elle a eu un pic. Peut-être que je l'avais composé, je dirais, 78 staffettes, tu sais. Puis là, vers 79, il y a quelqu'un qui a voulu produire un disque avec moi, mettons, tu sais, puis là, on s'est entré en production. Puis, ça a sorti en 80, finalement, sur disque. Mais entre-temps, j'avais fait des cassettes, des fois encore, que je vendais sous le manteau, et il y avait Ville de Rien live dessus, tu sais. Puis ça m'a été demandé. Avant qu'elle sorte sur disque, c'était comme un succès aux endroits où je me promenais. Puis après ça, quand elle a sorti sur disque, eh bien, il y a eu un poste de radio qui l'a fait jouer pendant 2 ans tous les soirs.
Oh boy!
Magog, à Magog, Simo FM, à Magog.
Ben voyons donc. Ben comment ça?
Ils ont mis ça dans la nuit, tu sais. Les animateurs ont mis la pièce un soir. Ils ont fait téléphoner, beaucoup de téléphones, pour demander qu'est-ce que c'est ça, puis c'est ça. Le lendemain, ils voulaient entendre la pièce. Le propriétaire du poste trouvait que ça n'avait pas d'allure. Il défendait au gars de la mettre, mais il le mettait pareil. Il travaillait dans la nuit, puis ça. Ils ont fait jouer pendant 2 ans. Okay. Un vrai phénomène, une pièce de 22 minutes. L'assaut, quand n'a pas voulu me payer pour 22 minutes, il me payait seulement pour 7 minutes.
Non.
Oui.
C'est pas vrai.
Ouais, trop long, je disais. C'était plus pour eux autres de la musique, alors que c'est de la musique quand même, il y a de la musique. C'est sûr qu'il y a une histoire, mais elle est musicale.
Ben justement, parlons-en un peu de l'histoire pendant que tu allumes ta cigarette et expliquer aux gens un peu c'est quoi. C'est en fait l'histoire de Capitaine No qui était accompagné d'un espèce de Mexicain qui a perdu sa langue. Et,
non, c'est un Indien.
Excuse-moi, un Indien.
Ouais.
Excuse-moi, c'est important de le dire.
Il
se promène dans le désert et puis il y a des mines, il y a de la dynamite, il y a des un nègre, il y a...
Des gros, des petits.
C'est ça, mais ça prend au premier degré. Là, on peut quasiment dire que c'est raciste. Là, on pense
c'est
que c'est
stéréotype. Si on regarde ça, ouais, c'est sûr. Là, je nomme toutes les affaires, les dossiers chauds, mettons, quasiment là-dedans. T'sais. Puis la clôture aussi, l'idée de la clôture, la propriété, c'est là.
Approximativement au bout du 200e piquet de la clôture, il y avait un aigle sur le bout du piquet de la clôture.
Dans le fond, quand on fait des affaires, des fois, on y pense pas toujours. C'est pas toujours... Puis après ça, on peut l'expliquer.
Et le nègre chantait sans arrêt d'une voix rauque qui était portée au loin dans le désert par le vent.
C'est sûr, quelqu'un qui prend ça au premier degré, ça se peut, il va l'aimer pareil. OK. Mais ça parle des gros, ça parle des nains, ça parle des nègres, ça parle des Indiens. C'est tous des sujets délicats. Et dans notre société, puis à un moment donné, mais qui finalement tout ce qui est pas comme les autres. Hein? C'est un peu ça. Alors...
Un peu comme vous, là. Vous êtes un étrange aussi, là.
Bon.
C'est peut-être un Indien blanc, là.
Je sais pas, là. Toi, t'en es un. Je regarde le nez un peu, là. Ben, en tout cas, c'est comme une histoire, puis à travers ça, on passe des messages dans ça. Mm-hmm. Mais sans que ça soit direct, c'est indirect, mais c'est comique. Puis les gens, en général, ils ont bien aimé ça, puis ils vont me le demander partout ce que je joue. Attends, tu sais.
Villery, c'est que j'en m'en aimerai. Villery.
Puis c'était fait dans un temps où on pouvait se permettre de faire quelque chose qui n'était pas pour les cycliques. Ben non, dans l'instant, c'est un peu ça. Mm-hmm. De nos jours, c'est la plus délicat, mettons.
C'est la plus délicat.
Toutes sortes de mouvements qui viendraient contester ci ou ça, parce qu'ils parlent au premier degré.
Votre CD qui s'en vient, votre nouvel album, là, qu'est-ce que ça va être? Comment, c'est quoi le titre de cet album-là? Et qu'est-ce qu'on va y retrouver exactement? Là, c'est...
Ben, le titre, ça va être de The Retour, tu sais, hein? The Retour. Et puis, on va retrouver des titres comme la balade de Joe Blow. On va avoir des titres comme Protestataire, Le Gonzo, Un Nouveau Monde, Le Temps qui passe, Allez où, Ici ou ailleurs, Beau Voyage, Je roule avec mon rêve. Essaye de tous les passer, là. Ça te donne une idée pareille.
Oui, oui, ouais, ça donne une idée.
C'est très large comme affaire. Puis, moi, je suis emballé. Tu sais, je vais te dire franchement, je suis vraiment emballé de ce qu'il y a là-dedans.
Mounounou, on sortait de la mine de rien, faisant semblant de rien. J'ai commencé à prendre un petit goût à dire rien partout.
Et puis, beaucoup de slides. C'est un album avec la slide guitare, je fais là-dessus. Moi. J'en jouais une couple d'années. Puis là, j'ai le goût de faire entendre ça au monde. Puis on en entend beaucoup dans du Lanois. Il y a des ambiances de ce genre-là dans si tu connais Daniel Lanois, un peu.
Ben justement, tu en as parlé tout à l'heure de Daniel Bélanger, Daniel Lanois. Tu me parles d'artistes comme ça. Là, peux-tu me dire qu'est-ce que tu écoutes régulièrement là, dans ton lecteur CD?
Moi, personnellement, mes choix, c'est Chris Rea, puis Mark Knopfler. C'est les affaires que j'aime le plus. J'écoute aussi du Bob Dylan, du bon, hein, le Bob Dylan, parce qu'il y a bien la...
Il a même fait un album de Noël récemment.
Mais je n'ai pas entendu. J'ai quasiment tous les albums de Bob Dylan. Je pense qu'il m'en manque deux. Là. Et puis...
Ben, d'ailleurs, on a dit que le Captain No, c'était le Bob Dylan québécois.
Ça se peut, parce que... C'était une grande influence pour moi, puis le rock à musique à bouche, je l'ai dans le cou peut-être depuis les soirées 4. Fait que tu sais, à tous les spectacles que j'ai fait, que ce soit en groupe ou seul, j'avais toujours mon rock dans le cou de la musique à bouche, ça, mon harmonica, ça fait partie de moi, tu sais. Puis Bob Dylan, je l'écoutais en masse, j'ai toute sa collection de disques, mais je la critique un peu. Je trouve que la moitié c'est bon, l'autre moitié est pourri, mettons, en général, c'est le même que je pense. Mais qu'est-ce qui est bon, c'est génial. Dans Bob Dylan, on ne sait jamais ce qui va nous sortir. Depuis quelques années, je trouve ça un peu moins intéressant. Mm-hmm. J'aime mieux le vieux Bob Dylan, mettons, dans un sens. Si on fait un rapport avec moi de Bob Dylan, je suis bien content de ça.
Excellent. Donc, Capitaine No, merci beaucoup. Et puis, si les gens veulent évidemment en savoir plus, rester informés, il y a un Facebook de Capitaine No. Et puis, l'album s'en vient de retour.
Il y a un site internet qui est allocapitaineno.com.
Après 3 heures de peine et de misère, j'avais la langue à terre, donne-toi, avant la face à terre, mon sac du sable.
Et puis, un mot de la fin?
Ben, mot de la fin, moi, je te remercie, je te trouve bien aimable d'avoir voulu m'interviewer, tout ça, tu sais, puis je souhaite le bonjour à tous les animateurs et les auditeurs de CKL. C'est là que je travaille.
Voilà.
Bon.
Merci, capitaine.
De Québec, et puis, j'aime bien ça venir jouer à Québec.
Merci beaucoup, capitaine.
Ça fait plaisir.